Audiolib présente Les morts ne chantent pas. La 11e enquête du département V. De UC Adler Olson, Line Holm et Stine Bolter. Traduit du danois par Caroline Berg. Lu par Julien Châtelet. Prologue. Jacob, novembre 1989. Dès qu'il reprit connaissance, Jacob sentit le froid qui lui mordait les doigts et pinçait ses pieds blessés. Il devait faire près de 0 degré et son souffle formait des nuages blancs devant sa bouche. Il voyait la vapeur monter de ses épaules dans l'obscurité et ses testicules rétrécis, qui pendaient comme 2 noisettes gelées entre ses cuisses, lui faisaient aussi mal que s'il avait reçu un coup dans l'entrejambe. Il aurait voulu pouvoir se rouler en boule, se recroqueviller, comme ce contorsionniste qu'il avait vu un jour au cirque Benouis, pour pouvoir souffler sur ses parties, ses doigts et ses orteils, surtout les orteils. Lise avait toujours affirmé qu'un garçon avec une voix comme la sienne ne devait jamais avoir froid aux pieds. Mais il était réduit à l'impuissance. Il était là, tout seul, debout au bord de ce lac d'un noir d'encre, nu comme un ver et ligoté à un chêne, les mains attachées derrière le tronc. L'écorce rugueuse lui blessait la joue, les côtes et la peau tendre de son torse, et il aurait voulu s'évanouir de nouveau pour retourner dans un endroit accueillant où il ferait chaud. Mais il ne savait pas comment faire. Il n'avait que 10 ans, et c'était la première fois de sa courte vie qu'il perdait connaissance. En tournant la tête, il découvrit son pyjama bleu ciel et son caleçon rayé par terre, à côté de lui. Ses vêtements étaient sales et mouillés. Il les lui avait arrachés avant de pisser dessus, et sur lui aussi. Puis il l'avait abandonné. L'urine formait une pellicule sèche sur ses jambes, et ses fesses le brûlaient comme si une armée de fourmis et de chenilles courait sur sa peau. Depuis combien de temps était-il attaché à cet arbre? Il l'ignorait. Les cris de guerre de ses agresseurs s'étaient éteints depuis longtemps. Ne restaient plus que les bruits de la nuit. Et l'épuisement et l'obscurité lui avaient fait perdre toute notion du temps. Il laissa sa tête tomber sur son épaule. Son corps avait presque renoncé quand une stridulation vint se mêler au chuchotement du vent. Il baissa les yeux et vit un merle à ses pieds. « D'où est-ce que tu viens, toi ? » murmura-t-il. L'oiseau battit des ailes, prit son envol et vint se poser sur lui. Il l'observa un long moment de ses yeux noirs et mobiles, ses griffes dans la peau tendre de son épaule. Petit à petit, il avait l'impression de ne plus faire qu'un avec le volatile au sombre plumage. C'était comme si l'animalité et la noirceur de l'oiseau entraient en lui. Les yeux fermés, il lui dit qu'il se fichait de savoir s'il avait été envoyé par Dieu ou par le diable du moment que l'un des deux voulait bien lui venir en aide. Un peu plus tard, il se réveilla en entendant des voix derrière lui. Le merle était parti. Jacob tourna la tête. Il vit Tommy, adossé à une bitte d'amarrage au bord du lac, avec entre les bras une bouée de sauvetage grisâtre. Comme Jacob, il venait d'avoir 10 ans, mais il faisait une demi-tête de moins que lui et était maigre comme un clou. « Je veux rentrer, » dit Tommy. « La ferme. C'est pas ma faute si on s'est trompé de chemin. » Berg, l'un des garçons les plus âgés du cœur d'enfant, apparut entre les arbres. « Tu nous as dit que le campement était au sud, Vang. Mais c'est où le sud, putain ?» En traînant les pieds, Mats Peter Vang sortit de sa cachette derrière un gros pin. Le Jutlandais, âgé de 11 ans, était un gosse costaud issu d'une longue lignée de pêcheurs taciturnes. Il montra un sentier un peu plus loin. « Moi, je crois que c'est par là. » Il parlait bas, en évitant soigneusement de regarder Jacob. « Vous avez l'intention de le laisser ici ? Il va geler cette nuit et il peut mourir. »